Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Aujourd'hui, Franck Ferrand nous entraîne au cœur d'une histoire pas si lointaine. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Une histoire tout juste cinquantenaire, puisqu'en compagnie de Claude Lemel, nous allons évoquer les Beatles, qui nous parlent à tous, plus ou moins, en tout cas, qui nous chantent à l'oreille. C'est Maxime et Arnaud qui m'ont suggéré ce sujet des Beatles par Internet. C'est quand même extraordinaire hein, ce phénomène Beatles. Vous savez, 1 milliard de disques vinyles vendus all over the world. Deux de leurs membres, Paul McCartney et Ringo Starr, sont encore de ce monde. Le premier n'a jamais que 70 ans aujourd'hui, et le second 73.
Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question posée par Louis sur le site internet d'Europe 1. D'où vient l'expression « c'est ballot » dans le sens « c'est dommage » ?
Oui, dans un sens tout à fait récent d'ailleurs, avec une connotation moqueuse. On va voir ça, mais pour le moment, je vous avoue que les expressions qui me viennent sont plutôt « can't buy my love »,« let it be »,« all you need is love ». Beaucoup de musique aujourd'hui dans cette émission. Nous sommes au cœur d'une histoire musicale.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Si j'en crois Paul McCartney, la Beatlesmania, c'est-à-dire la passion des Beatles, est née un certain 27 décembre 1960 lors d'un concert près de Liverpool. La salle, c'est une salle municipale, hein, la salle de Leatherland, on est à 12 km de Liverpool. C'était au départ pour une soirée dansante avec un certain nombre de groupes locaux. On entrait facilement pour 3 shillings. Ils étaient annoncés, ces Beatles, tout droit venu d'Hambourg. Et ça, c'est important. Il rentrait effectivement d'Allemagne, d'Hambourg. Et on peut dire que cette formation hambourgeoise a joué un rôle absolument essentiel dans leur carrière. Le groupe, ce soir-là, était composé de George Harrison, Paul McCartney, Pete Best, John Lennon, Chas Newby. Et quant à Ringo, il n'était pas encore membre du groupe. Ils vont chanter pendant 30 minutes ce soir-là. Leur première chanson, c'est Long Tall Sally, qui est une reprise de Little Richard. Le public s'avance pour mieux les voir. Vous savez, ça fait partie, au début, ils arrivent à un groupe de plus, quoi. Puis, là, quand même, ils attirent l'attention. Et très vite, on comprend qu'ils ne sont pas allemands. On avait cru, a priori, puisqu'ils étaient tout droit d'Hambourg, on se disait, c'est des chanteurs allemands. Non, pas du tout. Ceux qui avaient connu les Beatles avant leur départ pour Hambourg sont littéralement sidérés du changement. C'est plus les mêmes, on nous les a changés. Pete Best joue de la batterie avec force, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils sont habillés d'une façon incroyable, ils portent des jeans, des vestes de cuir. Il faut savoir qu'à l'époque, le jean est vraiment cantonné aux tenues de travail. C'est une tenue d'ouvrier, c'est quelque chose de très bon marché. Bref, c'est un très grand succès. Un agent qui assiste à ça, Dave Forshaw, dit qu'il joue si fort qu'il n'en croyait pas ses oreilles. Ça change complètement les habitudes. Il faut vite leur ajouter une autre date. C'est Tony Sanders qui racontera. Un de mes amis m'a parlé de ce groupe fabuleux qui avait joué à Leatherland. Il portait des bottes de cow-boy, il piétinait sur scène. Une semaine plus tard, on sortait de scène au Entry Institute et ses gars venaient après nous. Lennon portait une veste en cuir et McCartney une veste donnant l'impression qu'il dormait avec depuis des mois. Mais quand ils ont attaqué, ça a tout de suite été incroyable. Il fumait des cigarettes sur la scène alors que c'était interdit. Et pour une chanson, Pete Best n'a joué que d'une main parce qu'il fumait de l'autre. On trouvait ça complètement dément. Alors d'où viennent-ils ces Beatles ? Ils viennent, et c'est très important parce que ça fait intrinsèquement partie de leur formation. Ils viennent de familles tout à fait modestes de cette Angleterre industrielle du lendemain de la guerre. Vous savez, ils sont de cette ville portuaire de Liverpool qui avait été copieusement bombardée par les aviateurs allemands. C'est un contexte difficile hein, pour cette population ouvrière de l'Angleterre des années 45-46. On est en pleine reconstruction, certes, mais il y a encore, bien sûr, comme en France à l'époque, les tickets de rationnement, des privations de toutes sortes. Et évidemment, le rock sur cette génération naît pendant ou début de la guerre et qui arrive à l'âge de raison, comme on dit, à la libération. Enfin, à la libération pour ce qui est de la France. Hein. En Angleterre, on n'a pas eu besoin de libération, mais en tout cas au moment de cette après-guerre, il y a évidemment pour ces jeunes gens une sorte de planche de salut dans cette musique venue d'Amérique et qui sera le rock'n'roll, bien entendu, parce qu'au départ, c'est comme ça que ça naît. John Lennon est né en octobre 40, vous voyez, son père était marin. Il a été élevé par sa tante Mimi et par son oncle George Smith. Mimi avait quand même été jusqu'à porter plainte contre sa sœur Julia auprès des services sociaux parce que le petit John dormait avec sa mère et le compagnon de celle-ci. Vous voyez un peu l'ambiance, si je puis dire. On n'est pas très loin de Dickens, finalement, 80 ans plus tard. George, le bon tonton, meurt en 1955 d'une hémorragie du foie. On reste dans la note. À ce moment-là, John a 14 ans. Il est tout près de faire sa grande découverte. La découverte pour lui, c'est Elvis, évidemment. Il dira « Rien ne m'a vraiment touché jusqu'au jour où j'ai entendu Elvis. S'il n'y avait pas eu Elvis, il n'y aurait pas eu les Beatles. » C'est une révélation pour lui. En écoutant le rock'n'roll, il a trouvé sa voix. Il sait maintenant ce qu'il veut faire. À 17 ans, sa mère est fauchée par une voiture. Il est très marqué par cet événement. D'ailleurs, il va laisser tomber ses études, mais aussi la musique pendant un certain temps. Et quand il la reprendra, ce sera pour écrire des chansons concernant sa mère. Il y en a une qui sera enregistrée par les Beatles en 68, c'est Julia, bien entendu. L'autre, elle est dans le premier album solo de John Lennon, Mother. Je vous propose d'ailleurs d'entendre maintenant cette chanson particulière. Il dit « Mother, you had me ». But I never had you. Maman, tu m'as eu, mais moi je ne t'ai jamais eu. Pas que vous pensiez que John Lennon est le seul à avoir eu cette enfance un peu sordide. Paul McCartney est né dans une famille, alors certes plus qui se tient mieux, si je puis dire, mais famille très modeste aussi de Liverpool, avec un père livreur qui faisait de la musique quand même à ses heures perdues et une mère infirmière. Lui reçoit quand même une bonne éducation, si vous voulez, avec de bonnes manières. Il entre au Liverpool Institute. C'est le gentil garçon, Paul, si vous voulez, celui que les professeurs apprécient. Il a 14 ans quand sa mère meurt au moment d'une opération. Elle a été atteinte d'un cancer du sein. Vous savez, à l'époque, c'était des opérations très invasives. Elle meurt. Et il se lance à ce moment-là, littéralement, lui aussi, dans la musique. Il va développer cette passion pour la musique et il compose notamment sur le piano familial When I'm 64, quand j'aurai 60 ans, vous savez, qui sera dans le célèbre album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en 1967. Alors George Harrison, le plus jeune du groupe, il est né en 43 seulement, lui, le 25 février 43, d'une mère vendeuse et d'un père chauffeur de bus également à Liverpool. Il est le dernier d'une fratrie de 4 enfants et lui aussi, il a été touché non pas par la grâce, mais par Elvis. C'est exactement le même parcours que John, d'une certaine façon. Et au collège, il est complètement emballé par Elvis Presley. On l'appellera, lui, le Beatle timide. C'est un peu le discret, c'est le calme du groupe. C'est aussi, disons-le, celui qui va devenir le plus sarcastique. Et puis, celui qui les rejoindra, donc Ringo Starr, est né, lui, en juillet 40, sous le nom de Richard Starkey. Ses parents... Elsie et Richard sont employés dans une boulangerie. Ils vont divorcer quand il a 3 ans. Vous voyez, on est toujours dans cette même ambiance, hein, évidemment. À 6 ans, il est victime d'une crise d'appendicite qui tourne mal, hein, qui tourne en péritonite. Il est opéré d'urgence et il va passer 10 semaines dans le coma. S'il s'en sort, c'est un véritable miracle. Et d'ailleurs, il va rester à l'hôpital pendant 1 an. Et très tôt, lui enchaîne les petits boulots, comme on peut faire dans le milieu dont il est issu. Il est garçon de course, il est barman sur un ferryboat, il est apprenti ajusteur, etc. On peut dire que la musique, ça va devenir son défouloir à lui. C'est son exutoire. D'ailleurs, c'est tellement son exutoire qu'il est batteur. Ça ne s'invente pas. Il va prendre ce pseudo de Ringo Starr en 59. Il a 19 ans au moment où il rejoint le groupe Rory Storm à The Hurricanes. Il choisit Ringo à cause de ses nombreuses bagues. Les bagues, c'est des rings en anglais. Vous voyez quand même le genre, hein, quand même. Et il va garder que la première syllabe de son nom de famille, donc Ringo Starr. Alors lui, c'est l'aîné des Beatles. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir dans quel genre ils s'inscrivent, évidemment. Vous avez compris qu'une grande partie, enfin, qu'ils sont tous plus ou moins fascinés par Elvis Presley, par ce mouvement du rock'n'roll qui vient des États-Unis. Mais eux, ce qu'ils pratiquent et ce qu'ils vont pratiquer notamment pendant leurs études, c'est ce qu'on appelle le skiffle. Ça, c'est fondamental. C'est cette espèce de... un mélange de jazz, de folk, de blues. On peut jouer ça avec des objets de tous les jours. Vous savez, une planche à laver, un baquet à lessive, une caisse à thé, un manche à balai, une boîte à cigares, pourquoi pas, un peigne associé à une feuille de papier, zip et grac, ça fait une musique, ça fait un rythme. Il y a cette espèce de rythme qui les emporte, ce style très vif, volontiers débridé. Ils sont déjà, on peut dire qu'ils ont le feu sacré. Et d'ailleurs, ils vont fonder très tôt un groupe. John avait commencé par fonder un groupe qui s'appelait The Black Jacks, qui est jamais monté sur scène, qui était devenu The Quarrymen en 1956. Pourquoi Quarrymen? Parce qu'ils étaient, d'ailleurs, tous se retrouvent dans cette école qui s'appelle la Quarry Bank High School. Et donc, Quarry, les hommes du Quarry, si vous voulez. Et dans ce groupe, on fait bien sûr beaucoup de skiffle. C'est John qui s'impose naturellement comme le leader du groupe, dans cette espèce d'ambiance un peu jazzy, si on peut dire. Alors, il monte sur scène de temps en temps pour animer des kermesses. Faut pas oublier qu'on est en Angleterre, hein, quand même. Pour des soirées d'anniversaire ou des concours de musiciens amateurs. John, Paul, George sont vraiment déjà très soudés, puisque Paul McCartney rejoint le groupe en octobre 57. Il avait rencontré John Lennon en juillet précédent au moment d'un concert dans une fête paroissiale. On est vraiment dans l'Angleterre éternelle en même temps. McCartney a impressionné Lennon au moment où il a interprété à la guitare et simplement à la voix pure plusieurs standards du rock, dont 20 Fly Rock d'Eddie Cochran. Vous savez, ça a complètement fasciné John Lennon. Il y a une amitié très forte qui est née entre les deux. Faut pas oublier qu'ils ont l'un et l'autre perdu leur mère aussi. Vous vous rappelez, dans des circonstances bien sûr très, très douloureuses. McCartney et Harrison vont par ailleurs donc dans le même établissement scolaire, ce fameux Liverpool Institute dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui fait qu'ils prennent le bus ensemble. Ils vont devenir peu à peu amis. Ils passent de longues après-midi à essayer de déchiffrer et reproduire leurs chansons de rock'n'roll préférées, parce que quand vous avez un tube que vous aimez à l'époque, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous achetez la partition. Alors le groupe n'est pas stable, hein. Il a été composé de John, Paul, George, mais aussi de Len Carey, Eric Griffith, je pourrais citer un certain nombre d'autres noms. Je vais parler de Pete Best tout à l'heure, bien entendu. À cette époque, Ringo n'a donc pas encore rejoint le groupe, qui se produit sous divers noms. En 1958, on les voit se produire dans les caveaux de Liverpool, disons. C'est la grande époque de Saint-Germain-des-Prés. Alors, dans l'Europe entière, on veut faire pareil qu'à Saint-Germain. Mais alors, il y a le modèle et puis il y a la copie. Hein. C'est des rades, hein. Faut dire ce qui est. Ils se produisent dans de véritables bouges. La mère de Pete Best, donc du batteur, a monté son propre club qui s'appelle The Casbah Coffee Club. Dans la cave de sa maison, on joue là de la musique beat, hein, tout simplement. En juillet 1958, ça c'est important, ils vont enregistrer un 45 tours. jours pour 17 shillings 6 pence. Vous voyez le genre d'enregistrement dans l'arrière-salle d'une maison qui se trouve au 53 Kensington à Liverpool. Cette maison est devenue mythique, bien entendu. Sur la face A, John Lennon chante « That'll be the day » de Buddy Holly. Et sur la face B, In Spite of All Danger, qui est co-signé par Paul et George. Un exemplaire unique gravé, et dès le lendemain, on détruit la bande magnétique. À l'époque, vous savez, on s'encombrait pas avec tout ça. Alors, le groupe va changer de nom plusieurs fois. Il s'appelle Rainbows, Johnny et les Moondogs. Finalement, il devient The Silver Beatles par allusion aux Crickets qui viennent d'accompagner Buddy Holly en janvier 60. Les Beatles, c'est les Carabée, hein. Et puis ça devient The Silver Beats. Alors là, il y a un jeu de mots avec la musique, la beat music. Et puis The Beatles, un double jeu de mots avec un A. C'est sous ce nom-là qu'ils vont bientôt s'embarquer pour l'Allemagne. Car je vous l'ai dit, tout s'est passé à Hambourg. Qu'est-ce qui s'est passé à Hambourg? Eh bien, nous y venons dans un instant. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Yesterday, nous écoutions les Beatles qui sont au cœur de l'histoire cet après-midi. Et vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions sur les Beatles par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Nous revenons au début des Beatles avec vous, Franck Ferrand.
Ils avaient rencontré ces Beatles, ils s'appellent tout juste comme ça, hein, un certain Alan Williams, un agent très connu à Liverpool à l'époque. Il les avait rencontrés à l'époque, ils ne s'appelaient pas d'ailleurs encore les Beatles, dans son club qui s'appelle Jacaranda. On est en plein centre-ville. Et il les avait bien sûr tout à fait remarqués. C'est lui qui va les emmener, si je puis dire, de Liverpool à Hambourg. Il a eu l'idée, après avoir passé un week-end, vous savez, comme font les Anglais, ils vont passer un week-end sur le continent, puis alors lui, en l'occurrence, il était parti d'Amsterdam, pas oublier l'époque à laquelle on est, hein. Amsterdam, le voilà parti à Hambourg. À Hambourg, il découvre un quartier incroyable, s'appelle le quartier de St. Pauli, qui est d'une espèce de... C'est Hambourg au carré, si je puis dire, ou au cube, c'est-à-dire que vraiment, c'est la liberté à tout craint. On est dans la deuxième ville d'Allemagne, une Allemagne qui a été ravagée par la guerre, bien entendu, qui s'est remontée avec une force incroyable. Et cette ville en général et ce quartier en particulier sont devenus de véritables symboles de liberté où tous les comportements sont plus ou moins acceptés, où on vit autant la nuit que le jour. Quartier hyper cosmopolite, vous voyez. Et il y a notamment là un club qui s'appelle le Kaiser Keller, la cave de l'empereur, dont Williams a rencontré le propriétaire, Kochnieder, et lui a assuré qu'il y avait en Angleterre des groupes qui étaient tellement plus fun, tellement plus intéressants et amusants que les groupes allemands de l'époque. Et il a proposé, ce Williams, aux Beatles de les emmener, donc de les emmener là-bas. Ils sont quand même très jeunes à l'époque où ils partent pour Hambourg, hein. Aucun n'a de permis de travail, ce qui veut dire qu'ils peuvent être foulés n'importe comment. D'ailleurs, c'est ce qui va finir par arriver. Le plus jeune, George Harrison, n'a que 17 ans. Paul McCartney, à l'époque, est encore au lycée, il songe vaguement à devenir enseignant. Il a fallu qu'il persuade son père de le laisser partir, ça n'a pas été une mince affaire, inutile de vous dire. Évidemment, Alan Williams, c'est là qui accompagne ce groupe. Alors, les voilà qui partent le 16 août 1960 à 10h du matin. Ils partent pas en avion. Les voilà, ils ont pris un petit van, si vous voulez, et ils s'entassent là-dedans. Il y a donc John, Paul, George, à la basse Stu Sutcliffe, qui est un copain d'école d'art de John, et puis donc à la batterie Pete Best. Les bagages sont sur le toit, on traverse comme ça une partie, alors d'abord le ferry, puis une partie de l'Europe. C'est une, il faut imaginer leur excitation à ces garçons, bien entendu. En plus, au moment où ils entrent à Hambourg, ils vont percuter une voiture. Enfin, heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Tout ça, c'est plutôt pour la petite histoire, si je puis dire. Et les voilà à leur première soirée au Kaiserkeller. Cette discothèque en sous-sol, assez grande quand même, ça peut accueillir 500-600 personnes. Qui est la clientèle? Un peu tout ce qu'on trouve, mais des marins, pas mal, bien entendu. D'ailleurs, le décor de l'endroit est nautique, avec des sièges en forme de chaloupe, il y a des sirènes sur les murs. Enfin bon, on est à Hambourg, après tout. Beaucoup de musique. Au départ, il y a un jukebox, et puis des groupes de rock qui vont se succéder. Et sur scène, ce 17 août, il y a les Seniors, qui est un autre groupe anglais qui a été proposé à Kochmider, le patron de la boîte, par le fameux agent Williams. Il joue un certain nombre de morceaux. Et puis arrivent les Beatles. Alors, ils ont joué, ils sont d'abord passés par l'Indra, ce qui fait qu'au moment où ils arrivent, ils sont complètement épuisés, parce que quand jouer, quand on chantait, quand on s'appelle les Beatles, vous voyez ce que c'est. C'est une dépense d'énergie incroyable. Ils vont quand même honorer leur contrat. Il faut quand même vous dire qu'ils étaient partis de Liverpool la veille au matin, ils n'ont quasiment pas dormi et vraiment très peu mangé. Bu, ça c'est peut-être une autre histoire. Ils vont passer la nuit et alors là ils tombent littéralement de fatigue dans le cinéma que possède Kochmider. Ils sont installés à derrière l'écran sur des lits de camp dans deux pièces sans fenêtres et mal éclairées. Ils vont continuer à jouer, à se produire dans cette autre boîte qui s'appelle donc l'Indra. Ils sont payés 30 Deutschmark par jour. Voici ce que dira l'un de leurs biographes. Ce ne fut pas facile. Dans leur correspondance, les chanteurs se plaignaient souvent de problèmes de voix. L'habitude de jouer si longtemps avait été prise avec les jets des musiciens professionnels, alors que les Beatles sortaient tout juste du lycée. Ça aurait pu tourner au massacre. Ben oui, ils ne sont pas habitués à jouer, à chanter comme ça pendant des heures. Donc c'est tout un entraînement, c'est un métier, et ça aurait pu tout simplement leur casser la voix à vie. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été le cas. Le club ferme le 4 octobre 1960. Les Beatles, à ce moment-là, vont passer au Kaiserkeller, donc. Ils s'y produisent 58 soirs de suite d'octobre, en octobre et novembre 1960. Ils sont toujours payés chacun 30 Deutschmark par jour, ce qui n'est pas beaucoup. Pour Kochmider, on peut dire que c'est tout bénéfice. Ils présentent chaque soir deux groupes britanniques pour faire une musique en continu qui, en gros, lui coûte rien. C'est quand même pas mal, ça. À Hambourg, les Beatles ont tout de même, sur un certain nombre des autres chanteurs, l'avantage de ne pas travailler la journée. Paul gagnait plus d'argent à Hambourg que son père ou ses professeurs, et il pouvait s'acheter des vêtements et de nouveaux instruments, rapportera l'historien de la musique Gottfriedson. Kochmider nous dira, en scène, les musiciens ne devaient ni manger ni fumer, et il y a un règlement très strict. Les vêtements doivent être propres, il faut une bonne allure, un langage correct. Et la conversation avec le public par l'intermédiaire du micro n'est pas bienvenue, vous voyez le genre. Par contre, alors, vous pouvez, autant que vous voulez, grimper sur le piano, sauter dans le public. Il faut que ça bouge, bien entendu. On est dans cette nouvelle musique, il faut faire venir du public au Kaiserkeller de cette façon. La scène n'était d'ailleurs pas très sûre, entre nous soit dit. Les Beatles et les Hurricanes s'étaient mis d'accord pour la détruire. C'est Johnny Guitar qui raconte ça. La scène, dit-il, était branlante et très dangereuse, et nous nous sommes mis d'accord avec les Beatles pour la démolir. Ils ont commencé par taper des pieds, ensuite on n'arrêtait plus de sauter dessus. Kochmider disait « C'est bien les gars, vous faites du bon show !» Bon, bah finalement, la scène est effondrée, mais tout le monde est content. Fin 1960, Alan Williams revient à Hambourg pour discuter avec Kochmider le contrat des Beatles. Il en profite pour les emmener en janvier 61 dans un studio d'enregistrement avec les Hurricanes. Ils vont enregistrer à ce moment-là trois chansons, Summertime, Fever et September Song. Il y a quand même, là encore, on est un peu comme dans le premier cas, c'est-à-dire qu'il n'y a que quatre exemplaires créés, et celui d'Alan Williams d'ailleurs va se perdre le soir même dans un pub. Les Beatles viennent de découvrir Tony Sheridan qui joue au Top Ten et rapidement ils décident de rompre leur contrat pour venir jouer sur scène avec lui. Et là, Bruno Kochmider est furieux, bien entendu. Il leur donne un mois pour revenir dans ses clubs et il les menace de les faire expulser. Il a dénoncé George Harrison à la police. Il avait moins de 18 ans, je vous l'avais dit. Il n'avait pas donc le droit de fréquenter un club après 22 heures. Le 21 novembre 1961, la plainte de Kochmider porte ses fruits puisque George est expulsé. Et là, Kochmider dénonce Paul et Pete par pure rancune. Ils sont venus récupérer leurs affaires au cinéma, qui s'appelle Bambino, et ils les accusent d'avoir essayé de mettre le feu au cinéma, ce qui est complètement faux, mais ils sont fauteurs de troubles. Allez hop, les voilà expulsés à leur tour. Quant à John Lennon, eh bien, il va quitter l'Allemagne 9 jours plus tard avec ses valises, avec sa guitare et avec son ampli. Paul, John, George et Pete se réunissent le 15 décembre 1960. Ils sont de retour à Liverpool. Qu'est-ce que vous voulez? Alan Williams ne peut plus rien pour eux. Et c'est comme ça qu'ils vont participer à ce tout petit concert de cette toute petite salle des environs de la banlieue de Liverpool. On est un certain, je sais plus si c'est 17 ou 27 décembre 1960. Ce dont je suis certain, c'est que pour eux, ça va être un incroyable triomphe. Le premier d'une interminable série. Bonjour Claude Lemel, merci beaucoup d'être avec nous. Alors avec vous, ce que nous allons faire maintenant, c'est revoir non seulement la vie de cette bande de 4 garçons dans le vent, mais surtout leurs œuvres les plus célèbres. Quand je dis célèbres, il est très rare évidemment que des morceaux de musique aient à ce point-là conquis la planète entière.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
À l'honneur cet après-midi dans Cœur de l'Histoire avec vous Franck Ferrand et votre invité Claude Lemel, auteur de nombreuses chansons, président d'honneur de la SACEM, auteur de L'Art d'écrire une chanson aux éditions Erol.
L'art d'écrire une chanson, il le possédait, les Beatles. Alors ce qu'il faut que je dise, Claude Lemel, avant que nous en venions à notre conversation, c'est que ces Beatles vont repartir en Allemagne, pour l'Allemagne bien entendu, en 1961. Ils y retourneront d'ailleurs ensuite, ils feront leur fameuse grande tournée en 1966. Enfin bon, c'est très important cette influence d'Hambourg sur eux, notamment sur leur tenue. Cette mode que vous savez, les cheveux longs aplatis avec la mèche sur le front, c'était la mode de coiffure des étudiants en beaux-arts de l'époque à Hambourg, tout simplement. Hein. Et ils vont, c'est là qu'ils ont trouvé ça. Et puis, j'avais dit qu'ils chantaient au début en blouson de cuir et jeans, sauf que dans les caves d'Hambourg où ils vont se produire à partir de 1961, la tenue obligatoire et le costume, et donc ça va être là aussi pour ça qu'ils ont ce costume. Et puis l'ambiance, il faut pas oublier qu'ils ont un rapport privilégié avec les Allemands. C'est Dickie Tarrach du groupe allemand les Rattles qui dit: les Beatles sont les premiers que j'ai vu parler avec le public. Les autres se contentaient de remercier et d'annoncer la chanson suivante. Eux plaisantaient, étaient très intelligents, ils avaient des petites amies allemandes, ils apprenaient notre langue, ils parlaient un mélange d'anglais et d'allemand, ils riaient beaucoup. Ça nous a donné envie de nous adresser au public, nous aussi. Un jour, John s'est mis un siège de toilette autour du cou. Il a envoyé la photo à Liverpool pour que Bill Harry la publie dans le Mersey Beat. Horrifié, Brian Epstein a couru la récupérer avant qu'il le fasse. On était quand même dans une sorte de délire, de liberté. On est aussi, ne l'oublions pas, dans cette période un peu de rattrapage après les années si terribles de la guerre. C'est pas un hasard si tout ça naît entre Liverpool et Hambourg. on est dans les endroits les pires et dans une période terrible. De même que la Première Guerre mondiale avait donné naissance à cette extraordinaire époque des années folles et à tous ces caveaux de jazz, etc. De même, et au Charleston et tout ce qu'on veut, de même, la Deuxième Guerre mondiale va voir naître à travers le phénomène rock et à travers tous les petits enfants du rock, si je puis dire, cette espèce d'éclate, si vous me passez l'expression, dans le cadre d'une émission sur les Beatles. Alors, c'est en octobre 1962 que les Beatles ont enregistré Love Me Do. C'est leur tout premier single en anglais, Claude Lemel. Ça, c'est très important.
C'est le premier single, oui, et c'est une musique qui est encore assez rudimentaire. Mais il y a déjà, cette idée de faire, par exemple, deux voix à la tierce, bon, ce qui n'existe pas beaucoup dans le rock and roll à l'époque, mais qui vient des États-Unis, par exemple, avec les Everly Brothers qui faisaient déjà ça. Donc il y a quand même déjà ce goût chez eux de faire un petit peu différent et de faire plus joli.
Alors au départ, ils sont déjà quatre, mais c'est pas tout à fait les quatre mêmes. Hein. Ringo n'est pas arrivé. Ils vont se constituer peu à peu. Il y a véritablement 50 ans, on peut le dire.
Bah oui,
tournant 60,
un tout petit peu plus.
Un peu plus, hein, oui, voilà. C'est en 60 quoi en fait.
En 60, où effectivement, Ringo va les rejoindre pour former les Fab Four, les quatre définitifs Beatles.
Alors ce premier 45 tours Love Me Do, il est produit par Brian Epstein. Est-ce que c'est un succès?
C'est pas un numéro un, en tout cas. Ils vont rentrer dans les charts, mais je crois que ce single-là ne...
Qu'est-ce qu'on appelle les charts? Parce que nous avons un public...
Le hit parade des ventes. Le hit parade des ventes, donc, en Angleterre. Et c'est seulement le deuxième single qui va réussir à être numéro
un. C'est quoi le premier tube des Beatles, si on devait se poser la question?
Bah, je pense que Love Me Do est quand même un petit tube, même si c'est pas un numéro un, mais c'est une chanson qu'on a beaucoup entendue. Puis ensuite, bien sûr, bon, il y a She Loves You qui va vraiment casser la baraque et qui, d'ailleurs, qu'ils reprendront plus tard dans All You Need Is Love.
Il y a chez ces Beatles un mélange de culture britannique, on l'a bien compris, d'inspiration américaine totale et en même temps d'une certaine culture allemande. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière que, à travers les Beatles, c'est aussi cette Allemagne muselée qui a pu s'exprimer d'une certaine façon? J'ai dit à quel point Hambourg les avait transformés. Entre les quatre gamins qui partent pour Hambourg à l'été 60 et ceux qui en reviennent un an plus tard, il n'y a quasiment plus rien à voir.
Oui, c'est vrai. Je pense que leur séjour à Hambourg les a beaucoup marqués. D'ailleurs, moi, j'ai un ami musicien qui avait participé à ces mêmes galères, parce qu'il faut bien appeler ça des galères, et qui les a bien connus à l'époque, et qui disait toujours, ouais, il pensait qu'à se saouler la gueule et à prendre des petites pilules de toutes les couleurs. Bon, je me suis renseigné auprès d'un grand spécialiste des Beatles, celui Julien, il m'a dit, bah oui, c'était des amphétamines, parce qu'ils jouaient 7 ou 8 heures par jour, et sinon, ils n'auraient pas tenu le coup. Alors, je pense que c'est ça qui les a surtout changés. Bon, c'est vrai que lorsqu'on se trouve confronté, à ce genre de galères, encore une fois, à ce genre de public, à ce genre d'obligation, forcément ça change. C'est-à-dire que moi, je dis toujours à mes amis que j'écrivais pas les mêmes chansons au retour de mon service militaire qu'avant d'y aller.
C'est-à-dire qu'évidemment, la transformation du compositeur se lit comme un livre ouvert dans la musique qu'il produit. Hein.
Ah, ça, tout à fait. Et alors, chez eux, c'est absolument spectaculaire. Ah,
ouais. On n'aurait jamais autant progressé en restant chez nous, dira beaucoup plus tard John Lennon. Nous sommes nés à Liverpool, mais nous avons grandi à Hambourg. Et on lit par ailleurs dans les mémoires de leur manager, les Beatles ont changé en arrivant à Hambourg, mais que s'est-il passé au juste? Ils ont vieilli. Quand on a 17 ou 18 ans, chaque année dure très longtemps. Ils sont venus avec leur guitare et ont dû travailler toutes les nuits. Les Beatles jouaient 8 heures chaque soir, 7 jours sur 7. Quand on a du talent, il faut encore s'améliorer, sinon mieux vaut mettre un terme à sa carrière musicale. Les Beatles étaient bons et ils se sont retrouvés dans le quartier chaud où ils pouvaient avoir de la drogue, des filles, tout ce qu'ils voulaient en un mot. Alors qu'ont-ils fait? Ils ont saisi leur chance et sont devenus des stars mondiales. Et Alan Williams, qui les avait emmenés, conclut « Ce n'est pas Liverpool qui a fait les Beatles, c'est bien Hambourg. Les Beatles avaient un petit niveau avant d'y aller. Ils n'avaient donné que quelques concerts à Liverpool et manquaient d'unité. C'est là-bas qu'ils ont appris leur métier. J'avais suffisamment confiance en eux pour savoir qu'ils étaient assez bons pour y aller et l'histoire a prouvé que j'avais raison. Le nombre incroyable d'heures passées là-bas pouvait faire ou défaire un groupe. » Eh bien, en l'occurrence, il n'a pas défait les Beatles. Il les a faits.
Et comment ?
Ça a été une école, en quelque sorte, hein, pour eux. Une école à la dure, un peu.
C'est une épreuve qui a été une école, absolument. Et ça les a à la fois soudés et ça leur a permis de progresser énormément sur le plan à la fois, bien sûr, de leur musique, mais aussi du contact avec le public, c'est
oui,
essentiel.
Est-ce qu'on peut dire que ça les a fait progresser pour ce qui est des paroles, peut-être un peu moins? Je vous sens dubitatif, là.
Pas à cette époque-là. Non. Là, au niveau des textes, c'est encore très rudimentaire.
Oui, c'est vraiment des textes tout simples, en fait. Hein. On est même surpris.
Oui,
mais c'est
peut-être
ce qui a fait aussi le succès, peut-être aussi. Non,
charmant, mais très simple. Mais ça va s'améliorer vraiment beaucoup à partir de Hard as Night, Help et à la fin, les derniers albums, les textes sont pour la plupart très forts.
Alors, les tout premiers albums, il a fallu les aider, bien entendu. On sait ce que c'est que l'industrie du disque, surtout à cette époque. Hein. C'est une industrie naissante. On dit que les producteurs ont un peu aidé, qu'ils sont passés eux-mêmes chez les marchands pour acheter des disques.
Ça se dit pour Love Me Do, pour le premier 45 tours, effectivement. Il paraîtrait que Brian Epstein a fait quelques ventes forcenées pour leur permettre simplement de rentrer au fameux hit parade, dans les fameux charts.
C'est une véritable œuvre c'est une œuvre commune, les chansons des Beatles à cette époque. Ils travaillent ensemble ou est-ce que les uns interprètent les chansons des autres?
Je pense qu'à l'époque, ils travaillent ensemble. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que Lennon et McCartney décident de tout signer ensemble. C'est vraiment un accord entre eux, un accord extraordinaire qui n'a pas tellement d'équivalent. Parce qu'après, bon, tout le monde sait bien qu'il va y avoir les chansons de Lennon sont extrêmement identifiables, très reconnaissables. Les chansons de McCartney,
oui, chacun
totalement
a sa tonalité,
sa griffe. Oui, oui. Mais ça sera toujours, toujours signé Lennon, McCartney. Et je trouve ça vraiment formidable.
Alors, assez vite, quand je dis assez vite, on a vu que dès les premiers concerts dans les clubs de Hambourg, ça commence déjà. Puis alors, à partir de décembre 61, ça explose. Il va y avoir ce qu'on appelle la Beatlemania. Ça, c'est un phénomène. C'est-à-dire, on avait, ce qu'on peut dire, bon, il y avait Elvis Presley, évidemment, qui était une sorte de dieu vivant. Mais on avait rarement vu ça, quand même. Des foules entières, notamment de jeunes filles hystériques qui se jettent sur les chanteurs.
Ah oui, moi j'avais 17 ans à l'époque, je dois dire que ça me fascinait totalement d'entendre ces cris, de voir ces regards, enfin la télé montrait ça déjà. Bon, alors ça a été comme la langue d'Ésope, la meilleure et la pire des choses. La meilleure parce qu'effectivement, bon, être l'objet d'une telle idolâtrie, c'est-à-dire une immense affection de la part de son public, bon, c'est toujours formidablement porteur, mais en même temps c'est ce qui va déterminer un petit peu plus tard l'arrêt de la scène, parce que, bon, ils diront tous, on ne s'entendant même plus jouer. Bon, Ringo Starr, qui est à la batterie, n'entend pas les autres. Comment voulez-vous qu'ils puissent jouer ensemble? C'est absolument impossible.
Il va y avoir 50 ans, là, au mois de juin, les Beatles débarquent à Paris, donc on est en 1964. Évidemment, vous pouvez imaginer qu'un reporter d'Europe 1, enfin, on disait à l'époque Europe numéro 1, était sur place à leur arrivée à l'aéroport d'Orly.
Petit remue-ménage à Orly. Pour l'arrivée de quatre garçons dans le vent, Ringo, George, John et Paul, les Beatles. Un peu à l'écart, deux Rolls-Royce attendent, une Rolls-Royce noire et une Rolls-Royce gris métallisé. Ces vedettes sont anglaises et elles voyagent comme des lords. Et maintenant, je suis dans la Rolls-Royce et avec moi... Avec trois des garçons, on leur jette des portraits le représentant. La Rolls-Royce est littéralement prise d'assaut. On tape sur la carrosserie.
Salut. Salut. Salut.
Des jeunes filles courent maintenant à côté de la voiture, ce qui risque d'être dangereux. Je vais essayer de vous présenter trois des quatre Beatles qui sont à côté de moi.
You are... Salut. Paul.
Paul. À ma gauche, Paul. À ma droite.
John. Salut.
John, et en face de moi,
George, salut.
Alors ça, c'était donc l'arrivée des Beatles à Orly au micro de Jacques Ourevitch d'Europe numéro 1. Alors c'était en juin 1965, donc ça c'était pour leur deuxième tournée en France, parce que l'Olympia c'était 64, évidemment, Claude Lemel. Hein.
Il me semble, oui, mais oui. Je n'ai pas forcément les dates très précises en tête.
Et alors voilà ce qu'il disait au micro de François Jouva deux jours plus tard. Donc là, cette fois, on les interroge sur leur concert parisien. Voilà ce que ça donne. C'était donc le 20 juin 1965.
En France, vous ne déplacez pas tellement les grandes foules. Non, c'est vrai, en Angleterre et en Amérique, c'est pire. En France, il n'y a pas de femmes dans l'audience. Dans l'audience, il n'y a que des hommes, que des garçons. On dit que les Beatles n'aiment pas Ringo. Même ceux qui n'aiment pas les Beatles aiment Ringo. Comment vous trouvez-vous, Ringo? Moi, je suis laid, mais gentil. Les autres Beatles sont beaux, mais méchants. Vous avez été décoré par la reine et de nombreuses personnalités ont été vexées et ont renvoyé leurs médailles. Si tout le monde renvoie leurs décorations, nous serons les seuls médaillés, nous serons très fiers. Vous porterez votre médaille sur scène? Nous ne la porterons que lorsque nous dînerons avec la reine.
On est au deuxième, pour pas dire au troisième degré. Alors, les Beatles connaissent, on l'a compris, dans un premier temps, un succès relativement mitigé de ce côté-ci de la Manche. En revanche, de l'autre côté de l'Atlantique, on va leur faire un accueil triomphal. Nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Let it be, c'était les Beatles sur Europe 1 qui sont au cœur de l'histoire avec vous, Franck Ferrand, cet après-midi. Et votre invité, Claude Lemel, auteur de nombreuses chansons, président d'honneur de la SACEM, auteur de l'art d'écrire une chanson aux éditions Erol.
Alors Claude Lemel, là avec Let it be, on va revenir ensuite en arrière bien entendu à cette tournée américaine dont je parlais, mais là avec Let it be on est vers la fin déjà, hein. C'est un peu la queue de la comète déjà.
Ah, c'est le dernier album, ouais, voilà, alors c'est le dernier sorti, mais ça n'est pas le dernier enregistré. En réalité ça a été interverti à Abbey Road, enregistré
et sorti tout de suite.
Tout de suite, et c'est Let it be donc qui a été le dernier album. J'avoue une préférence pour Abbey Road.
Et vous, vous, à cette époque-là, vous travailliez avec Mélina Mercouri, me racontiez-vous?
Ah, je travaillais déjà avec Joe Dassin, oui. Avec Mélina, effectivement. Et bon, c'était mes débuts, oui, tout à fait. Et Joe et moi, on adorait les Beatles.
C'est ça, et vous avez rencontré un journaliste qui connaissait.
Oui, alors j'avais rencontré avec Mélina Mercouri, donc fin 70, un journaliste ami des Beatles. Non seulement il les connaissait, mais c'était un ami. Et je lui avais demandé pourquoi se sont-ils séparés. Il m'avait répondu très clairement, une formule très lapidaire, « Women and Money ». Voilà.
Alors, c'est toujours fascinant, bien entendu, après coup, parce qu'au moment quand on vit la carrière des artistes, quand on est dedans, tout ça a l'air naturel d'une certaine façon, mais après coup, d'imaginer que des titres comme ça deviennent d'aussi grands succès. Là, on peut parler de succès planétaire. Hein. On a entendu Yesterday aussi tout à l'heure, c'est incroyable.
Ah, c'est mondial. Bon, Yesterday, c'est extraordinaire, parce qu'il se réveille avec la mélodie. Il se réveille avec cette mélodie. Il est tellement surpris.
McCartney,
oui. Et il est tellement surpris que par la qualité évidente de cette mélodie, qui va croire pendant quelques jours que c'est pas de lui, que c'est une réminiscence, qu'il l'a pompée à quelqu'un. Il va interroger un certain nombre de ses amis et tout le monde lui dit non, c'est une mélodie originale. Et ça s'appelle au départ Scramble X. Heureusement qu'il a changé le titre.
Oui, cela dit, ça aurait peut-être eu le même succès avec Scramble X, hein, c'est possible. Et peut-être même que ça aurait donné aux œufs brouillés une nouvelle mode. Parce que ce qu'il faut peut-être pas oublier, c'est qu'à l'époque, les Beatles sont faiseurs de mode. Ils auront été ceux qui ont incarné ce début des années 60, même on va dire les années 60, à la quintessence.
Oui, alors avec les Rolling Stones.
Avec les Stones, bien sûr.
Évidemment. Mais ce qui est fascinant tout de même chez eux, c'est cette volonté de travail, cette longue patience. Bon, il y a deux périodes. Au fond, la période où ils tournent, ça c'est jusqu'au 29 août 1966, le dernier concert où là vraiment ils s'entendent plus du tout, jouer. Et décident d'arrêter. Et puis à partir de ce moment-là, il y a la période studio. Et ils vont passer mais des heures et des heures et des journées en studio. Et c'est un travail extrêmement méticuleux. Alors, de recherche.
On va venir à ce travail en studio. Finissons-en avec les tournées justement peut-être. Ouais. Notamment la fameuse tournée américaine. On peut imaginer qu'au pays de naissance du rock'n'roll, au pays du King qui a été leur idole, on les attend un peu au tournant bien entendu quand ils arrivent.
Ah, on les attend au tournant, mais c'est un très 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 gros succès. Et ce qui fascine chez eux aussi beaucoup, bon, le public, les journalistes, c'est leur humour. Les conférences de presse sont formidables. Bon. On demande à Ringo Starr, are you a mod or a rocker? Parce qu'il y avait les mods et les rockers, c'était les deux clans un peu rivaux à l'époque. Il répond, I'm a mocker.
Ils ont, on peut dire, un sens aigu des médias. Je pense que c'est peut-être en cela qu'ils sont le plus modernes, finalement. Leur musique est neuve, leur look, leur façon. Mais la façon qu'ils ont de jouer avec les journalistes, avec les photographes, ils sont constamment sur un mode humoristique. C'est très britannique, ça. So British, finalement.
C'est so British et so brilliant.
Ah oui, bien sûr. Parce qu'il fallait avoir le répondant extraordinaire. Il faut peut-être pas oublier non plus qu'ils ont eu cette formation dont je parlais tout à l'heure et cette vie difficile. Ce sont... Pourquoi pas dire que ce sont des gamins de la rue, ce serait excessif de dire ça, mais en tout cas, ce sont des gens qui se sont tôt colletés à l'existence dans ce qu'elle peut avoir d'âpre. Et donc, ils ne sont pas du tout des oies blanches, hein, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ça, c'est absolument clair. Et mon ami Tony Harvey, donc, qui les avait connus à Hambourg, me le confirmait bien. Mais bon, ce sont des gens aussi extrêmement intelligents. Bon, c'est clair. Bon, à partir du moment où il y a cet esprit de répartie, bon, à chaque conférence de presse, ils pourraient être tout de même un peu tétanisés. C'est impressionnant d'avoir autant de monde autour de soi et de susciter un tel engouement. Non, il y a toujours une très grande décontraction et une répartie du tac au tac formidable.
Autre modernité phénoménale, c'est ce que vous nous disiez, c'est ce travail en studio pour l'enregistrement. Ils ont compris, à la même époque que Karajan le comprenait pour la musique classique, d'ailleurs, ils ont compris que tout allait désormais se passer par le disque et que c'est là que se fait le... C'est un vrai laboratoire, c'est un vrai travail, ça c'est passionnant. On peut parler bien sûr d'un album comme Sgt. Pepper's, par exemple.
Le mot laboratoire est un mot bien choisi parce que c'est vrai que ce sont des gens qui ne se contentent pas de s'endormir justement sur leur laurier. Ils pourraient faire de très belles chansons, etc. Mais non, ils sont toujours à la recherche du petit quelque chose de plus, de l'innovation. Et bon,
très à l'écoute de ce qui se fait chez les autres aussi, hein, quand même, faut le dire.
Tout grand créateur doit l'être, incontestablement. Et il y a des trouvailles tout à fait étonnantes, comme la fameuse chanson de Sgt. Pepper, A Day in the Life, qui est une chanson de Lennon, à l'intérieur de laquelle ils incorporent une chanson de Paul McCartney qui n'a strictement, mais alors rien à voir, et le tout marche formidablement bien.
Entre parenthèses, le nombre, alors il y a 200 chansons environ, je pense, hein, mais dont 30 sont devenues des standards internationaux, il n'y a pas un si grand nombre de chansons que ça chez les Beatles, hein, par rapport à d'autres groupes dont on pourrait citer infiniment plus de titres.
Mais la carrière est très courte.
Elle est courte, ouais, c'est ça.
C'est 8 ans. De 62 à 70, et encore bon, je compte 70, alors qu'ils se séparent en janvier 70, en réalité 62-69. Mais la densité de l'œuvre, même s'il n'y a pas un nombre extraordinaire, la densité est extraordinaire.
Vous parliez de l'album Abbey Road tout à l'heure, qui donc est le tout dernier, mais l'avant-dernier paru.
L'avant-dernier paru, mais le dernier enregistré, oui.
Voilà, c'est ça. Ça, c'est, pour vous, c'est le chef-d'œuvre?
Il y a deux chefs-d'œuvre pour moi, c'est Sgt. Pepper et Abbey Road, mais c'est vrai que sur cet album, il y a encore, par exemple, bon, un travail de recherche formidable sur la face B, bon, où ce sont des bouts de chansons, mais qui fonctionnent merveilleusement bien les uns par rapport aux autres. Et puis, à la fin, tout petit pied de nez très impertinent de McCartney, seul à la guitare, Her Majesty.
Her Majesty is a pretty nice girl.
Yes, today, someday I'm gonna make a mine. Ouais. Bon, faut le faire quand même.
Mais il y a toujours eu, entre les institutions britanniques et les trublions qu'étaient les Beatles, une sorte de complicité en même temps. Hein. C'est assez intéressant, ça.
Bah, c'est-à-dire que je pense que les institutions sont bien obligées de reconnaître
ce
qu'apporte au Royaume-Uni ce groupe extraordinaire.
Alors, ça amène à la dimension un peu grinçante de l'affaire. Et on présente aujourd'hui les Beatles comme... Mais ça, c'est le cas de toutes les plus grandes stars. On a eu la même chose avec Charlie Chaplin au cinéma, par exemple. Hein. C'est-à-dire que après coup, c'est l'adulation universelle, c'est l'admiration de l'humanité tout entière. Sauf qu'au moment où ça se passe, il y a énormément de critiques. Il ne faudrait pas croire que les Beatles ont été si bien accueillis. D'abord en France, hein, il faut le dire aussi. Il y avait quand même quelques journalistes qui étaient particulièrement critiques contre les Beatles.
On ne peut pas avoir une telle carrière aussi phénoménale sans susciter des critiques. C'est impossible. Bon, alors c'est qu'on est totalement lisse. C'était vraiment pas leur cas. Il y a eu beaucoup de polémiques, et en particulier, bien sûr, la fameuse polémique déclenchée par la phrase de... Alors, il y a Lucie, oui, mais Lennon a toujours dit, non, c'est mon
Lucie
fils qui est rentré de l'école.
Lucy in the sky with diamonds.
Ouais,
ce qui fait LSD, hein, quand même.
Oui, c'est l'interprétation que beaucoup de gens en ont faite. En réalité, Lennon, je vous dis, il a toujours dit, non, c'est mon fils qui est rentré de l'école un jour avec un dessin. Je lui ai demandé qu'est-ce que c'est, il m'a répondu, papa, c'est Lucy in the sky with diamonds. Bon, ouais, qui saura jamais la vérité.
C'est pratique, ça, de dire ça, finalement. Ouais. Il avait le dos large, cet enfant.
Et il y avait aussi la fameuse polémique déclenchée par la phrase de Lennon, nous sommes plus populaires que Jésus-Christ.
Et
ça a déclenché un raz-de-marée, mais terrible.
Il va avoir un côté christique, d'ailleurs, John Lennon, on peut le dire. Alors, il y a aussi, mais on ne va pas parler de ça, là, mais il y a toute l'affaire avec Yoko Ono, il y a toute la... il ne faut pas oublier l'attentat, bien entendu, hein, qui va jouer un rôle essentiel dans la mythification du groupe.
Absolument, mais c'est pas des gens lisses du tout, c'est des vrais créateurs avec tout ce que ça peut comporter à la fois de formidable mais aussi d'iconoclaste et quelquefois pouvant susciter des réactions très violentes.
Qu'est-ce qu'on peut dire de l'ultime collaboration entre Lennon et McCartney, A Day in the Life?
A Day in the Life, oui, c'est ça, c'est cette fameuse chanson donc qui est à la fin de Sgt. Pepper, où il y a une très belle œuvre de John Lennon, mais à l'intérieur de laquelle on a incorporé carrément, bon, c'est comme une greffe, comme un greffon, un bout de chanson de McCartney très sautillante, bon, et qui n'a strictement rien à voir avec le propos de la chanson de Lennon. Alors tout ça est relié évidemment par des morceaux musicaux dont ils ont l'idée, mais que George Martin, parce qu'il faut jamais oublier de parler de George Martin, qui est le cinquième Beatle, réalise. Pour moi, c'est un pur chef-d'œuvre, et c'est là encore, bon, on suit Danton, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace.
Merci infiniment, Claude Lemel, d'être venu nous parler des chansons des autres, et en l'occurrence des quatre autres que sont les Beatles. Je rappelle le titre notamment de votre ouvrage aux éditions Erol, L'art d'écrire une chanson. Ça, c'est pour tous ceux qui voudraient s'y mettre. J'espère que les Beatles continueront à faire des petits. Il y a beaucoup de livres sur les Beatles, on ne veut pas tous les citer, notamment Les Beatles pour les nuls de Pierre Mikhaïlov et Jean-Éric Perrin, sous la direction de Gilles Verland. Ça a été publié là, l'année dernière. Les Beatles à Hambourg, c'est important parce qu'on s'est inspiré, quand je dis on, c'est en l'occurrence Marion Sauveur qui a fait le récit d'aujourd'hui, s'est inspiré de cette affaire. Les Beatles, 50 ans de légende, également aux éditions Bréal, c'était paru en septembre 2012. Merci beaucoup à toute mon équipe, parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui j'étais sur un sujet un peu moins familier que d'habitude. Donc merci à Marion, je l'ai dit, merci à Lorena, à Mathilde et à Nicolas. On peut dire qu'on arrive à parler aussi d'histoire du rock dans cette émission.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question posée par Louis sur le site internet d'Europe 1. D'où vient l'expression « c'est ballot »
Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Louis, qui nous l'a envoyé sur le site internet d'Europe 1 et qui aimerait savoir d'où vient le mot ballot que l'on retrouve dans l'expression c'est ballot.
Oui, ça c'est intéressant, c'est un glissement de sens. Vous savez, autrefois un ballot ou une balle, tout simplement, c'était un paquet de marchandises enveloppées qu'on maintient avec avec des cordes, si vous voulez, pour être transportées, tout simplement. Bon, c'est, autrement dit, c'est la chose la plus inerte, si je puis dire, la plus bête qui soit. Eh bien, évidemment, au 19e et au début du 20e siècle, le ballot va se mettre à désigner une personne inerte, sotte, maladroite, qui se laisse entraîner comme un simple ballot de marchandises. Donc c'est la personne qui est ballot. Et puis, on finit par dire c'est ballot dans le sens de c'est bête, c'est dommage, ce qui veut dire, ce qui traduit une certaine impuissance face à la situation. Vous voyez que peu à peu, le terme a complètement changé de sens et bientôt, je pense que dans 10, 20 ou 30 ans, ça deviendra synonyme de dommage. C'est quand même assez étonnant.